Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Leridon, Bertille Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Audrey Guélil. On poursuit notre série consacrée au rétablissement de la paix, faire taire les armes. Lundi, nous avons parlé du dernier plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient. Mardi, nous nous sommes demandé si les aides au développement en Afrique permettaient vraiment d'acheter la paix. Place aujourd'hui à l'Ukraine. 5 ans après les accords de Minsk, peut-on sortir de la guerre? C'est la question qu'on se pose ce matin.
À midi, nous attendions le tir d'une fusée éclairante blanche depuis le côté ukrainien. Nous espérons un résultat positif venant de l'Ukraine. Hier, nous avons signalé par 2 fois que nous étions prêts. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau prêts à procéder au retrait des troupes.
Nous sommes prêts. Il faut maintenant un retrait complet des forces armées russes et des groupes armés illégaux derrière la frontière ukraino-russe, conformément à la feuille de route. Sinon, nous reviendrons sur les positions que nous venons de quitter.
Depuis le retrait des troupes sur cette section, il n'y a pas eu d'échange de tir.
Le retrait, ça veut dire qu'en fait, les positions de l'armée se sont rapprochées 1 kilomètre des habitants. En cas de bombardement, les maisons pourraient être touchées. Je ne sais pas à quoi pense Zelensky. J'espère juste qu'il comprend que la Russie est l'occupant et Poutine l'agresseur.
Voilà l'atmosphère sur la ligne de front il y a quelques semaines, au mois de novembre-décembre dernier. Depuis le début du conflit en 2014, la guerre dans le Donbass a fait plus de 13 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, plus d'un million de déplacés. Et si les combats ont beaucoup baissé en intensité depuis les accords de Minsk de février 2015, les armes continuent de se faire entendre. Et chaque mois, de nouvelles victimes sont à déplorer dans des accrochages le long de cette ligne de front qui s'étend sur près de 500 km. Le 9 décembre dernier, Emmanuel Macron accueillait à Paris les présidents russes et ukrainiens en présence de la chancelière allemande. Ce sommet, au format dit Normandie, n'avait pu avoir lieu depuis 2016, mais l'élection l'année dernière d'un nouveau chef d'État en Ukraine, Volodymyr Zelensky, a permis de débloquer la situation et de remettre les protagonistes autour de la table. Alors un nouveau rendez-vous au format Normandie pourrait avoir lieu d'ici le printemps. Peut-on enfin espérer la paix? Kiev et Moscou sont-ils disposés à régler réellement ce conflit dans les territoires de l'Est, ou le statu quo serait-il finalement une option préférable à leurs yeux? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Anna Colin-Lebedev. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Vous aviez notamment écrit Le cœur politique des mers aux éditions EHESS, mais bien d'autres articles dont on mettra d'ailleurs les références sur la page de Culture Monde. Merci d'être avec nous. Florent Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC et puis cofondateur de ce blog Eurasia Prospective, auteur vous notamment des Chemins de l'État de droit qui était paru aux éditions Presse de Sciences Po. D'abord peut-être un point sur la situation sur place. On entendait dans le petit son introductif l'atmosphère sur cette ligne de front au mois de novembre-décembre, ce préalable à une nouvelle rencontre entre les présidents russes et ukrainiens qui était que les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes devaient se retirer de cette ligne de front d'1 kilomètre. Tout ça sous l'œil évidemment des observateurs de l'OSCE. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place? Est-ce que les combats ont cessé, Anna Colin-Lebedev?
En réalité, les combats n'ont cessé que dans les 3 points de désengagement, en fait, issus du sommet de Paris du mois de décembre dernier, qui sont 3 endroits où, sur une zone, sur la ligne de contact, en fait, des passages sont notamment aménagés pour les populations civiles pour pouvoir traverser la ligne de contact, soit en direction des républiques séparatistes, soit en direction de l'Ukraine de Kiev. Sur le reste de la ligne de front, les combats sont toujours en cours, les échanges de feu sont quotidiens et on déplore des morts chaque semaine.
À qui la faute, Florent Parmentier? Ces accrochages?
Ce conflit, effectivement, est toujours vivace. Et ça, effectivement, depuis la conclusion de l'accord de Minsk 2 en février 2015, pas une seule semaine, effectivement, sans, avec un bilan qui serait vierge de toute victime.
Y compris depuis le sommet de Paris, qui prévoyait que tout le monde se retire de cette ligne de front. Il y a encore des accrochages.
Il y a encore
des accrochages. À qui la faute ?
Sur le terrain, il y a plusieurs niveaux de responsabilité, évidemment. Il y a il y a le niveau du conflit lui-même, où les responsabilités ont déjà été discutées, y compris sur cette antenne, sur la manière dont la Russie a soutenu des séparatistes. Sur le plan local, on a très souvent des jeux de un peu ambivalents d'ailleurs, mais d'accrochage, de provocation de part et d'autre qui amène finalement chacun des protagonistes à interpréter des signaux, des points, ce qui fait que vous avez des tirs du côté des séparatistes, mais vous en avez également de l'autre côté également. Ce qu'il faut voir, voilà, c'est que à l'origine vient un point très clair qui est la question de la confiance que les deux parties peuvent se donner. Et on voit qu'il y a trois points effectivement sur lesquels cette confiance commence à se construire, mais on est très très loin du compte et il faudra bien sûr prendre en compte là aussi une question politique, en fait, qui est celle du règlement du conflit dans son ensemble, et partant de là, du statut de ces territoires au sein de l'Ukraine. Donc on voit qu'il y a à la fois des causes très locales et des réactions à différentes provocations de part et d'autre, mais il y a également des enjeux beaucoup plus profonds qu'il faudra traiter.
Anna Colin-Lebedev, on va évidemment voir quelles sont les propositions qui sont sur la table, la fameuse formule Steinmeier dont on parle beaucoup depuis de nombreuses semaines, mais pour bien comprendre les choses, il faut faire un peu de pédagogie et revenir aux accords de Minsk 2. On est en février 2015, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on prévoit à ce moment-là ? Parce que en réalité, on discute encore aujourd'hui de cet accord-là, et notamment sur le déroulé des choses où de part et d'autre on n'est pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'il y a dans cet accord qui a été conclu il y a maintenant 5 ans, tout juste ?
Oui, en effet. Donc l'accord de Minsk 2 qui succède à l'accord de Minsk 1 qui lui n'avait été suivi d'aucun effet va établir un certain nombre de points qui vont encore aujourd'hui servir de base aux négociations. Et je dirais que c'est presque le seul point auquel tous les protagonistes tiennent, c'est-à-dire aussi bien la Russie est attachée au terme de l'accord de Minsk 2 qui l'arrange d'ailleurs sensiblement, l'Ukraine, mais également les partenaires européens.
Donc il y a une vraie reconnaissance multilatérale de cet accord.
Disons que c'est le moins mauvais compromis qu'on a réussi à trouver dans cette négociation, même si des critiques en interne de cet accord de Minsk sont nombreuses, notamment dans la société ukrainienne.
Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors cet accord de Minsk, si vous voulez, n'est pas respecté dans son ensemble, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est toujours un objectif à atteindre et qui continue à ne pas être atteint. L'objectif de cesser le feu est évidemment violé à chaque moment. Je dirais un des points qui est respecté plus ou moins respecté, modérément respecté, c'est le non-usage des armes lourdes dans la zone de conflit. Les bombardements ont cessé dans cette guerre en Ukraine. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est d'autres types d'armes qui vont être utilisées. L'accord de Minsk va également installer la présence de l'OSCE sur place en tant qu'observateur du conflit armé et des violations de cessez-le-feu. Encore aujourd'hui, en fait, l'OSCE est l'acteur de référence pour pouvoir nous informer en fait sur ce qui se passe véritablement sur la ligne de front, même si son mandat est extrêmement limité et sa présence est restreinte par les acteurs des deux côtés. Et que sa présence n'empêche absolument pas que les combats aient lieu. Alors ça, c'est sur les points un petit peu consensuels. Dans les points consensuels, il y a également l'accès à l'aide humanitaire, etc.
Ce qui bloque, c'est quoi ?
Ce qui bloque, c'est la question du statut et la question de la sortie du conflit. Les accords de Minsk 2 prévoient un régime d'autonomie élargie des régions séparatistes de Donetsk, sur les territoires des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, à la suite d'élections locales, mais qui, assurerait le maintien de ces régions au sein de l'État ukrainien avec des prérogatives spécifiques. Et là-dessus, l'accord est vague. Et l'accord est suffisamment vague justement pour le rendre totalement inapplicable.
Ouais, en tout cas, il n'est pas vague pour Vladimir Poutine parce que c'est le cœur du problème, ces élections. Pour Poutine, et c'est a priori ce qu'il y a dans le texte, d'abord, on commence par faire des élections et ensuite, Kiev récupère le contrôle de sa frontière. Et du côté de Kiev, on veut absolument d'abord récupérer le contrôle de sa frontière et seulement ensuite organiser les élections. On est là, Florent Parmentier, au cœur du problème. C'est dans quel sens on déroule le processus, en fait.
On est effectivement au cœur du problème. Peut-être trois choses sur le déroulé, en fait, de Minsk et le cas. La première chose, c'est qu'effectivement, d'un point de vue diplomatique, quand on développe un format particulier, on a tendance à aller jusqu'au bout du format, quand bien même les accords seraient contestables. Il y a plusieurs formats de négociation sur l'Ukraine. Vous avez un dialogue Russie-États-Unis qui a été mis en place et qui a sa propre existence. Il y a le groupe de contact entre la Russie, l'Ukraine et l'OSCE. Et puis il y a le format Normandie. Ce format Normandie, donc, c'est au cœur finalement de cette négociation de Minsk 2, à savoir la France et l'Allemagne qui s'invitent dans un conflit avec la Russie et l'Ukraine. Donc c'est ce format le mérite d'exister. D'autres formats auraient été possibles. L'Ukraine a un certain nombre de propositions au sein de la communauté stratégique ukrainienne, plaide pour un format un peu plus élargi, un format qui pourrait être notamment celui du mémorandum de Budapest, qui était censé, dans les années 90, garantir la protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Contre la dénucléarisation du territoire.
Oui, en échange de la dénucléarisation du territoire. Il y a un deuxième élément, effectivement, sur l'interprétation en fait de ces points. Vladimir Poutine, dans sa conférence de presse annuelle du mois de décembre dernier, lui-même mentionne cette idée selon laquelle finalement, il faut s'appuyer sur Minsk, que renégocier Minsk, c'est en quelque sorte une impasse, et que partant de là, il faut aller dans nourrir en fait cet accord plutôt que le dénoncer. Et effectivement, les volontés de part et d'autre sont assez claires. Du côté de l'Ukraine, la restauration de l'intégrité territoriale est au cœur. Le rétablissement du contrôle aux frontières entre la Russie et l'Ukraine, le cadre unitaire de l'Ukraine et les choix de politique étrangère sont des éléments non négociables. Et de l'autre côté, la Russie pousse pour une solution fédérale pour l'Ukraine qui permettrait une sorte de reconnaissance de l'autonomie poussée de la part de Donetsk et de Lugansk, avec une idée qui est qu'à partir du moment où il y a une forme d'autonomie plus forte sera l'autonomie, plus la capacité de ces territoires sera forte pour orienter le cours de la politique étrangère de l'Ukraine, ce qui est in fine l'objectif côté Russie.
Et donc très concrètement, éventuellement empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et pourquoi pas même à l'Union Européenne. Oui. Mais Anna Colin-Lebedev, si je reviens sur cette question du déroulé, c'est-à-dire du côté de l'Ukraine, on veut, avant d'envisager des élections, récupérer le contrôle de sa frontière, alors que du côté de la Russie, on veut d'abord organiser des élections et ensuite éventuellement permettre ce retour de la souveraineté ukrainienne sur cette frontière. Finalement, pourquoi est-ce que ça bloque ? Est-ce que, d'une certaine manière, de part et d'autre, c'est pas un moyen de conserver le statu quo qui, en réalité, peut-être profite aux deux camps ?
Alors, je pense qu'il y a deux questions dans cette question. La question du statu quo et de son intérêt pour les acteurs sur place est une question importante. Déjà, je pense une première chose aussi pour faire un petit peu de pédagogie. La Russie ne déclare absolument pas l'intention d'annexer les territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk comme elle a pu le faire pour la Crimée. Alors que cette attente-là était clairement explicitement l'attente en fait des territoires séparatistes au début du conflit armé. Donc l'intérêt de la Russie est de voir ces territoires continuer à influer sur la politique ukrainienne d'une manière, je dirais déstabilisatrice. C'est-à-dire que le rôle déstabilisateur des territoires séparatistes dans le fonctionnement politique ukrainien assure à la Russie une capacité à influencer par des moyens hybrides la politique intérieure ukrainienne et la politique étrangère ukrainienne. Donc effectivement, il y a un intérêt à ce que la situation ne trouve pas un règlement clair et reste instable pour pouvoir peser dans la région.
Sauf que, pardon, mais la Russie pourrait garder son influence dans le scénario où des élections sont organisées et que les forces pro-russes les emportent. On garde pleinement cette influence et donc cette capacité à peser sur la politique de Kiev.
Tout à fait.
Alors pourquoi empêcher les élections ?
La Russie n'empêche pas les élections, mais en revanche, la Russie aujourd'hui a un contrôle sur ces territoires séparatistes qu'on sait très important. mais qu'on a énormément de mal à mesurer. C'est-à-dire que les territoires séparatistes sont aujourd'hui des territoires relativement fermés, difficiles d'accès. La présence, on connaît la présence de, voilà, on est sûr de la présence de l'armement russe, du soutien financier russe, d'une direction russe dans la politique des territoires séparatistes. En même temps, le degré de présence et l'intensité de présence militaire de l'armée russe, de soldats de l'armée russe sur ce territoire, est relativement peu connu. Très probablement, en fait, les forces russes sont en grande partie celles qui soutiennent en fait ce conflit armé, sont stationnées de l'autre côté de la frontière. Cependant, en fait, la Russie cherche à garder un contrôle extrêmement important et elle est poussée à cela également par les dirigeants des territoires séparatistes eux-mêmes, qui, en fait, seraient sensiblement affaiblis par le retrait russe.
Florent Parmentier, et puis je précise, je disais pourquoi Moscou s'y oppose. En réalité, Moscou est très favorable à l'organisation d'élections, sauf que, de fait, elle les empêche, puisqu'elle fait comme préalable le retour de la souveraineté de Kiev sur ses frontières. Donc, de fait, elle les empêche, elle empêche leur organisation. Florent Parmentier.
Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que la Russie n'a pas nécessairement une ligne de conduite cohérente tout au long du conflit ukrainien. C'est-à-dire que on a tendance à penser que la politique russe, ou parfois on la résume finalement à cette capacité à faire en sorte que des territoires soient indépendants, soit lui soient rattachés. Je pense que ce n'est pas le cas, et on a pu le dire à l'instant. C'est-à-dire, il y a cette idée plutôt qui est de dire que il est préférable de contrôler l'ensemble de l'Ukraine depuis des territoires qui effectivement seraient réintégrés d'une manière éventuellement dysfonctionnelle. Mais en tout cas, la Russie de ce point de vue-là n'est pas tant opposée à la paix finalement qu'une Ukraine stable qui fonctionnerait. C'est ça la principale difficulté. Je dis que la Russie n'a pas un point de vue unitaire parce qu'on a vu à travers le différence d'approche, en tout cas un changement de personnel politique. Jusqu'à présent, M. Sourkov était responsable pour la présidence russe de la négociation et en tout cas de la politique vis-à-vis des territoires séparatistes. Sourkov est une personne qui avait choisi le drapeau des indépendantistes, pouvait définir l'hymne qu'il devait jouer, les emblèmes, transformer les médias, même renommer des noms de rues et de monuments séparatistes. Donc on est dans une approche effectivement qui est un soutien très fort d'affirmation des entités séparatistes. Le cas de Dimitri Kozak, qui l'a remplacé, en tout cas dans cette mission de négociation pour la Russie du conflit en Ukraine, n'est pas exactement sur la même ligne. Les deux s'entendent mal et il n'est pas sur la même ligne parce que si on regarde ce qui s'est passé quelques années plus tôt, en 2002 très précisément en Moldavie, en tant que membre de l'administration présidentielle, Dimitri Kozak avait pour mission de favoriser une réunification en Moldavie. Il faut savoir que la Moldavie, pour faire un peu de pédagogie, avait à l'est de son territoire une entité séparatiste qui s'appelle la Transnistrie. Et donc ce conflit transnistrien, à un moment, avait une possibilité de règlement poussée par la Russie, suite à une négociation de Dimitri Kozak qui consistait à faire en sorte que la Transnistrie réintègre la Moldavie, donc garder l'intégrité territoriale de la Moldavie, ou plutôt la refaire, mais que le prix de cette réunification entre la Transnistrie et la Moldavie était de fédéraliser l'État moldave et partant de là, en quelque sorte, de prendre sur sa souveraineté. C'est-à-dire que l'idée aurait été que la Transnistrie, très proche de la Russie, aurait eu un droit de veto sur toute orientation de politique étrangère. Et on peut penser que ce changement de personnel politique, donc mettre Monsieur Kozak, s'est envoyé un message qui est de dire on va essayer de vous proposer une solution de fédéralisation qui sera naturellement dans nos intérêts, mais qui permet d'avoir une fin possible du conflit.
J'entends le signal envoyé, j'entends aussi le fait qu'il y a finalement des divisions au sein même du pouvoir russe dans cette manière d'appréhender la question ukrainienne. Il n'empêche que sur le terrain, Anna Colin-Lebedev, il y a quand même une situation qui est que on change les noms de rues, on pousse au déplacement des populations qui ne sont pas pro-russes et qu'à l'arrivée, on a une forme d'homogénéisation de territoires qui désormais sont totalement tournés vers l'Est. Si on considère que oui, peut-être demain, on est en capacité d'organiser des élections, que oui, peut-être on se met d'accord sur un certain régime d'autonomie, est-ce que ce territoire-là pourrait encore être rattaché à l'Ukraine d'aujourd'hui? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a des territoires qui sont pas de facto exclavés du reste de l'Ukraine?
C'est une grande question, c'est une question très compliquée et c'est une question qui reste un petit peu taboue dans le débat public ukrainien, d'ailleurs. Première chose, les habitants de ces territoires séparatistes, qui au début étaient extrêmement tournés vers la Russie, qui ont une très grande peur de l'Ukraine, qui continuent à être nourris de désinformation, en fait, par les médias locaux et par les médias russes sur ce qui se passe en Ukraine, ont développé quand même une identité régionale très forte au sein des républiques séparatistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont se déclarer essentiellement, en fait, citoyens de leur petite région. Donc, il y a un enclavement également sociologique de ces populations, même s'ils ont gardé des contacts des deux côtés de la frontière.
Et identitaire, on rejette son ukrainité, d'une certaine manière.
Voilà, on rejette son ukrainité, on ne se considère pas comme russe non plus, même si la Russie a une politique de distribution de passeports très importante dans ces régions, on en reparlera peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a une hostilité qui est là. Il y a une hostilité également, une identité, une hostilité qui s'est installée, qui n'était pas présente avant le conflit armé, c'est un produit du conflit armé. Il y a une hostilité également côté ukrainien. Côté ukrainien, dès le début du conflit armé, en fait, on va voir les Ukrainiens perçoivent ce conflit comme une agression de la Russie avant tout, mais une agression qui a des complices. Et ces complices, ce sont les locaux, les habitants des territoires séparatistes de la région de Donetsk et de Lugansk, qui sont d'emblée considérés comme des traîtres et comme des responsables, en fait, de la mort d'Ukrainiens d'autres régions, qui sont allés combattre dans le Donbass. Donc, à Lviv, on va dire, mais pourquoi est-ce que c'est mon fils, habitant de Lviv, qui doit défendre vos territoires, L'hostilité se manifeste même à l'égard des réfugiés, de ceux qui ont fui, en fait, les territoires séparatistes, pour aller en Ukraine de Kiev, contrôlée par Kiev. Donc, il est vrai qu'il y a un climat social aujourd'hui, en Ukraine, qui fait que les Ukrainiens vont se poser la question, mais est-ce qu'on a envie, en fait, est-ce que ce sont encore des citoyens ukrainiens? Est-ce qu'on a encore envie de les avoir dans la vie politique? Est-ce qu'on a encore envie que ce soient nos voisins?
Et d'ailleurs, Florent Parmentier, à ce titre, récemment dans une émission de télé, Volodymyr Zelensky, donc le nouveau président, a expliqué que si la guerre s'éternisait et qu'on ne trouvait pas de solution, il envisagerait de construire un mur à la frontière. Il a dit, je cite, « Le Donbass deviendrait un autre territoire qui ne serait plus considéré comme le nôtre, juste une zone non reconnue par la communauté internationale et occupée par des miliciens. » Alors on ne sait pas si c'est de la provocation ou s'il le pense vraiment, mais ça dit de cette fracture qui a été effectivement produite par ce conflit.
Oui, effectivement, le président Zelensky est parfois auteur à la fois de blagues assez amusantes, notamment sur les passeports. On se souvient qu'il y a quelques mois, la Russie avait proposé aux séparatistes des passeports et le président Zelensky avait répondu qu'il donnerait des passeports à toute personne qui souffre de problèmes politiques et de dissidents et de dirigeants inconséquents et que particulièrement il s'adressait par là aux citoyens russes d'à côté qui devaient souffrir de très mauvais gouvernants. Donc il est parfois voilà dans ce jeu-là. Il y a aussi un jeu interne. Le président Zelensky s'est fait élire avec une très très large majorité, presque trois quarts des suffrages exprimés au second tour, sur une politique qui est plutôt celle de faire la paix dans le Donbass. Il l'a dit d'ailleurs dans sa campagne électorale, si je dois sacrifier ma popularité pour mettre la fin au conflit, je sacrifierai ma popularité. Mais il est aussi pris dans un jeu politique où ses opposants, dès lors que le président Zelensky a été invité à Paris avec Vladimir Poutine en décembre dernier à Paris, a été un peu pris à partie par une partie de l'opinion publique qui s'est mobilisée autour du leitmotiv pas de capitulation. Donc il y avait cette idée que le fait d'aller vers un compromis avec la Russie pour solder le conflit est une forme de capitulation. Donc on a quelque chose de ce point de vue-là où il est aussi obligé de donner des gages à une partie de son opinion publique qui ne comprendrait pas et qui serait en tout cas très hostile à une forme de paix qui serait vécue comme une paix incertaine. En gros, il vaut mieux ne finalement rester dans une situation inconfortable plutôt que d'avoir une paix
qui serait en fait une capitulation, en tout cas ressentie comme ça par une partie de l'opinion.
Donc ça c'est le premier élément. Ensuite sur ces défis, il y a trois types de défis. Il y a à la fois un défi institutionnel par rapport à ces régions séparatistes, à savoir oui ou non, doit-on aller vers une fédéralisation de l'Ukraine ou quelle forme d'autonomie il faut donner à ces territoires qui, aujourd'hui, ont développé, effectivement, avaient déjà une identité culturelle préexistante en quelque sorte, mais comme toutes les régions ukrainiennes, et qui là, sont dans une situation où la question de la représentation se pose. Il y a une question politique, qui est celle de la réconciliation ukraino-ukrainienne, en quelque sorte, puisque ce sont des citoyens ukrainiens, et que dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, et la communauté internationale peut être utile. Et puis il y a une troisième question, qui sera celle de la reconstruction économique de ces régions, puisque en 5 ans, effectivement, leur situation s'est considérablement dégradée, sur un plan humanitaire d'ailleurs, et sur le plan aussi du projet économique que peuvent proposer les dirigeants.
Justement, on va pouvoir l'entendre, cette dégradation. Je propose d'entendre le témoignage de 2 retraités dans cette région de l'Est.
Ils nous traitent comme si nous étions l'ennemi numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils pensent que c'est nous qui avons voulu tout ça? D'être coupés du reste du pays? Nous étions heureux de vivre en Ukraine, nous recevions nos retraites à la maison. Maintenant, sans qu'on comprenne pourquoi, ils nous appellent des occupants.
Ils vont même pas réparer le pont. La République populaire de Lugansk a proposé de fournir du matériel, mais l'Ukraine a refusé.
Voilà, on entendait Ludmila et Valentina, 2 retraités de Lugansk, qui expliquaient combien leurs conditions de vie sont compliquées sur place, extrait d'un reportage de France 24. Anna Colin-Lebedev, Laurent Parmentier évoquait il y a quelques instants le président Zelensky, rappelait comment il avait été assez bien élu et combien il était sorti finalement renforcé de cette élection avec une très belle cote de popularité. Or, il se trouve que précisément, cette cote de popularité, elle est un petit peu en train de s'effriter. Il y a quelques jours, il y a un sondage, alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut le considérer comme fiable ou pas, mais c'est un sondage qui faisait passer sa cote de popularité sous les 50%. C'était la première fois. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on sent qu'il y a une dynamique un peu baissière. Par ailleurs, il y a eu cette séquence où son premier ministre a posé sa démission. Alors, il se trouve qu'elle a été rejetée et que finalement le gouvernement est maintenu. Mais quand même, est-ce que on a aujourd'hui un Zelensky? Enfin, quel est le niveau de fragilisation du président aujourd'hui? Et dans quelle mesure est-ce que justement cette fragilisation en interne peut-être le met en difficulté dans ses négociations avec la Russie?
Je ne pense pas qu'on doive s'inquiéter outre mesure pour l'instant de la fragilisation du président Zelensky. La baisse du taux de soutien du président, je dirais, est plutôt normale et rassurant. Hein. Le fait de gouverner, en fait, va le confronter à un certain nombre d'enjeux qui va faire émerger des critiques et faire baisser sa popularité. Je dirais ce que ça nous montre, c'est le caractère un petit peu ouvert de la vie politique ukrainienne. C'est une vie politique fluide, non figée autour d'un leader charismatique ou d'un leader autoritaire. On est sur, il y a du jeu, il y a de la concurrence, il y a des acteurs qui vont s'affronter. Voilà, ça c'est des dynamiques politiques internes. Je dirais qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky sent très bien que dans ses négociations avec la Russie, il n'est pas en position de force et que sa force, à mon sens, selon la manière dont il l'exprime, dépend beaucoup de la solidité du soutien des partenaires occidentaux, hein, et notamment de la France et de l'Allemagne dans cette négociation. Tout seul, le président Zelensky est effectivement un novice dans la politique. L'ensemble de son personnel politique est aussi tout à fait nouveau. Il porte effectivement ce projet de rétablir la paix dans le Donbass, mais aucun président ukrainien n'aurait pu être élu sans ce projet de rétablir la paix dans le Donbass. Il y a une unanimité là-dessus dans la vie politique ukrainienne, même si les moyens vont
diverger. La question étant de savoir quelle paix.
Voilà, la question étant de savoir quelle paix. Je dirais que ce qui pourrait le fragiliser au niveau interne, c'est si ces efforts de rétablir la paix pouvaient passer pour une compromission avec la Russie, pour une posture pro-russe, s'il se montre pro-russe, s'il se montre arrangeant, accommodant, là, toutes les accusations dont il a pu faire l'objet, on lui a reproché sa russophonie, etc., etc., son origine, qui est une origine géographique de l'Est de l'Ukraine. Ça, ce serait impardonnable dans la vie politique ukrainienne.
Mais est-ce que c'est pas déjà un petit peu le cas? Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression « agression russe ». Dans, en tout cas, une certaine frange de la société ukrainienne, c'est comme ça qu'on qualifie ce qui se passe à l'Est. Sauf que précisément, Zelensky ne veut pas utiliser cette expression, lui. Il ne parle pas d'agression russe.
Alors, Zelensky va l'utiliser en interne, quand même.
Pas dans les médias.
Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que dans les présidentielles de 2019, d'abord, ce qui était frappant, donc ukrainien en 2019, ce qui était frappant, c'est que Zelensky s'est déclaré extrêmement tard. Il s'est déclaré en fin 2018, toute fin 2018, même fin décembre. Et donc c'est un premier élément qui est intéressant, c'est de voir effectivement le caractère sporadique en fait de sa candidature d'une personne qu'on avait vue en président, mais dans des comédies qui sont distribuées sur des plateformes donc. Il y a ce point intéressant qui est effectivement que vraisemblablement il a poussé ce discours-là, mais il faut se souvenir que c'était pas exactement le discours de son prédécesseur. Petro Poroshenko avait fait campagne avec un slogan qui était une armée, une langue, une religion. Le slogan assez dur. Et d'ailleurs, il a eu, là aussi, au moment où la Russie a saisi des navires ukrainiens en mer d'Azov, il y a eu ce réflexe qui était de prendre assez rapidement la loi martiale. Et ça a été interprété à un moment comme une possibilité pour le président ukrainien de reprendre la main, avec l'idée essentielle de Petro Poroshenko, qui politiquement consistait à dire qui, parmi les candidats à la présidentielle, est le mieux armé pour lutter contre l'agression russe. Et c'est là-dessus qu'il a fait campagne. Et en étant, parce que c'est aussi là où était son point fort, et d'incarner en fait une résistance à l'agression russe, où, étant président, il a renforcé considérablement l'armée ukrainienne, ce qui a contribué d'ailleurs à stabiliser en fait ce front. La question de Volodymyr Zelensky était plutôt de dire comment on fait pour se sortir de là. Et c'est là-dessus en fait qu'il a réussi à construire une majorité politique extrêmement large. Et de fait, le positionnement des deux présidents est aussi perçu différemment à l'échelon international. Il est évident que le président Macron peut aussi lancer son initiative sur la Russie parce qu'il voit à travers Zelensky la possibilité de pousser pour des améliorations dans la région. Et il aurait été beaucoup plus difficile de travailler avec Petro Poroshenko sur ce cas-là, puisque Petro Poroshenko avait été mis dans une situation où il ne pouvait être qu'en position défensive et donc extrêmement autoritaire, en quelque sorte.
Mais donc, ça veut dire que et la France et l'Allemagne sont des soutiens très forts dans ces négociations. Parce que tout à l'heure, Anna Colin-Lebedev disait ça sera décisif. Il a besoin de ces deux soutiens, la France et l'Allemagne, sinon il n'y arrivera pas seul. C'est en tout cas ce qu'il pense. Les soutiens sont francs et massifs du côté de la France, de Paris et de Berlin.
Il en a besoin. Ce qui est certain, c'est que les diplomates français ont observé un changement d'attitude entre guillemets du président ukrainien, c'est-à-dire que il y a une volonté peut-être plus pragmatique dans les exigences, plutôt que d'exiger des armes, du soutien armé, etc. Il va exiger des points plus spécifiques. Et c'est sur ces points spécifiques que les Français et les Allemands sont plus à l'aise.
Comme quoi, par exemple?
Sur différents points, je pense que des soutiens spécifiques, ça va être sur là, ne serait-ce que sur des questions économiques, sur des questions de et même de s'il fallait avoir un soutien pour il me semble aller dans le sens de Volodymyr Zelensky, les Européens, les Français, les Allemands en l'occurrence sont plus à l'aise de travailler avec lui pour différentes raisons. L'intérêt que ça peut avoir, c'est que précisément il y a eu des échanges de prisonniers. On en a eu fin 2019 à la fois en septembre et on a eu en décembre. Sur ce genre de sujet-là, finalement, les Allemands, les Français ont l'impression de pouvoir avancer. Et donc, ils seront davantage force de proposition. Il ne faut pas non plus oublier qu'entre les deux tours, le président Macron avait reçu le candidat Zelensky à l'époque. Entre les deux tours sur la présidentielle, ce qui a contribué aussi à forger l'image internationale de Volodymyr Zelensky. Donc on a, de ce point de vue-là, deux leaders qui sont à peu près de la même génération et donc qui ont certainement des intérêts communs.
Anna Colin-Lebedev, les auditeurs n'ont pas l'image, mais vous avez dodeliné de la tête, vous n'aviez pas l'air d'accord. Alors, vous allez réagir librement, me dire sur quoi vous n'étiez pas d'accord, et puis ensuite, je voudrais vous relancer sur la question de la fragilisation ou pas de Zelensky, mais je vous en prie, Anna Colin-Lebedev.
Alors, la France et l'Allemagne, soutien solide et indéfectible de l'Ukraine, ce n'est plus perçu comme ça à l'intérieur du pays. Même si, le jeu politique est d'essayer de consolider le plus possible ce soutien. Très récemment, il y a eu un voyage organisé pour les journalistes ukrainiens à Paris, avec pas mal de rencontres avec des diplomates français, justement pour les éclairer un peu sur la position qui est celle de la France dans cette négociation sur la paix en Ukraine. De retour de ce voyage de presse, les premiers articles paraissent et les journalistes sont absolument dévastés, méfiants, extrêmement déçus en fait de ce qu'ils ont entendu à Paris de la part des diplomates français. Ils perçoivent en fait le rapprochement avec Moscou qu'opère le président français comme une mainmise de Moscou sur le processus de paix et un signe de faiblesse. Le fait que le président Macron ait accepté de participer aux célébrations du 9 mai à Moscou est un signal qui est perçu de manière extrêmement négative en Ukraine. Les célébrations du 9 mai, donc la victoire sur le nazisme à Moscou, sont un moment symbolique très fort où la Russie va affirmer sa puissance militaire, mais aussi son rôle un peu dominant sur la scène internationale. Donc ça, c'est perçu comme une gifle, très clairement, par les intellectuels et les journalistes ukrainiens.
Peut-être que du côté français, il faut aussi l'analyser au prisme du refus de François Hollande à l'époque, précisément, de s'y rendre. Il y avait là aussi peut-être une volonté de s'inscrire en rupture avec son prédécesseur.
Certainement, mais vous voyez, l'effet, il y a un effet Ukraine qui est un peu différent.
Florent Parmentier, peut-être encore un mot sur la question de cette fragilisation ou pas de Zelensky, parce que j'évoquais la démission du Premier ministre ukrainien qui finalement est resté parce que Zelensky lui a demandé. On rappelle en quelques mots, en gros, c'est une affaire interne, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui a fuité dans laquelle on entend le Premier ministre expliquer qu'en gros, Zelensky ne connaît pas grand-chose, qu'il a des connaissances, je crois que je sais plus quel est le terme, mais assez primitives, dit-il, je crois, en économie de Zelensky. Ce qui est d'ailleurs, je comprends, c'était pas son métier à Zelensky. Mais beaucoup d'observateurs disent qu'en réalité, la fuite même de cette vidéo révèle qu'il y a des luttes d'influence très fortes aujourd'hui du côté de l'Ukraine. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'effectivement, il y a là, dans le cercle de Zelensky, des gens qui essayent peut-être de peser pour faire tomber ce gouvernement, récupérer du pouvoir? Enfin, qu'en est-il?
Je pense qu'il y a deux choses sur la situation actuelle de Zelensky. Il y a un volet interne et un volet externe. Un autre volet externe qu'on n'a pas encore mentionné. Le volet interne, c'est que malgré tout, la popularité de Zelensky reste extrêmement forte. C'est-à-dire la plupart des dirigeants politiques en Europe souhaiteraient avoir à peu près le même taux de soutien dans les conditions où il obtient son soutien, c'est-à-dire avec malgré tout une opposition des médias qui ne sont pas à lui, avec tout un tas de conditions en fait où donc le passer de 70% d'opinion favorable à moins de 50 dans ce contexte-là n'est pas encore rédhibitoire. Il a encore de solides cartes, d'autant que son opposition n'est pas nécessairement structurée de la meilleure des manières. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui contribue quand même à fragiliser la position de l'Ukraine, au-delà du cas franco-allemand, c'est que sous Donald Trump, on est passé d'une affaire russe d'ingérence de la Russie aux États-Unis à une affaire ukrainienne, avec le fils de Joe Biden, qui lui-même a été rémunéré par une entreprise ukrainienne, et donc à un moment le vice-président Joe Biden aurait utilisé de sa position pour essayer d'avoir tout simplement un certain nombre d'avantages, et donc cette affaire ukrainienne a pris beaucoup de place dans le débat politique américain, ce qui fait que le président Trump est à la fois en train d'envoyer des signaux très contradictoires. Il peut, il y a eu une affaire il y a quelques mois qui était celle de l'enregistrement d'une conversation entre Zelensky et Donald Trump, où Donald Trump critique à boulet rouge sur ses partenaires et néanmoins alliés français et allemands, mais on voit bien que la peur qui existait fin 2016, c'est-à-dire avant l'entrée en, 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 en poste de Donald Trump n'est pas totalement dissipé. En tout cas, de ce point de vue-là, on voit bien que la position traditionnelle des républicains, qui était de soutenir avant tout toutes l'Ukraine par nature et dire que la Russie était l'adversaire, est en train de vaciller, ou en tout cas d'évoluer considérablement.
On va accueillir dans un instant Maxime Audinet, mais juste avant, un tout dernier mot, très rapidement, Anna-Colin Lebedev, la Crimée. On n'a pas encore parlé depuis 40 minutes qu'on parle de ce conflit ukrainien. D'ailleurs, on avait bien dit que pour se rencontrer à Paris, on ne fallait pas parler de la Crimée. C'est terminé, on n'en parlera plus, c'est entériné pour tout le monde. La Crimée est russe, c'est terminé, fin de l'histoire.
C'est entériné pour la plupart des acteurs, mais pas pour les Ukrainiens. Dans les revendications politiques des Ukrainiens sur cette guerre, la question de la Crimée reste centrale. Mais il est évident que pour les Ukrainiens également aujourd'hui, dans la chronologie des négociations, il faut d'abord résoudre la question du Donbass avant de remettre sur la table la question de la Crimée. Mais elle est toujours là.
Et on est clairement déterminé à ne pas la lâcher.
On est clairement déterminé à ne pas la lâcher, ceci d'autant plus que les militants criméens, anciens habitants de Crimée, et notamment les groupes tatars de Crimée, les activistes tatars de Crimée, restent extrêmement actifs et très présents sur la scène politique ukrainienne et continuent à rappeler qu'il y a des prisonniers politiques en Crimée, pour emprisonnés parce qu'ils s'opposaient au pouvoir de Moscou, et que cette question est loin d'être résolue.
Oui, et puis quand on regarde un peu les choses, parce qu'il y a la diplomatie, mais il y a aussi le terrain, la société civile, et la Crimée, ça avait été un moment absolument décisif, un moment très important, à partir duquel il y avait une très forte mobilisation populaire sur le plan militaire. On se souvient avec ces milliers d'Ukrainiens qui décidaient de s'engager dans des bataillons volontaires extrêmement nombreux. Vous avez d'ailleurs fait un papier extrêmement intéressant sur ce sujet, mais la Crimée avait été vraiment déclencheur. Il y avait une multiplication, un engagement très fort dans ces bataillons à ce moment-là. On est avec vous, Anna-Colin Lebedev, Florent Parmentier, autour de cette crise, cette guerre même du côté de l'Ukraine. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il y a une autre guerre qui se joue en Ukraine, peut-être moins frontale depuis le début de la crise, par médias interposés, médias russes et ukrainiens, qui confrontent leur version, leur vision de ce conflit.
Le président a souligné qu'il n'aurait pas été possible d'organiser un référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie sans un fort soutien des habitants de la péninsule. Selon un sondage indépendant, 75% de la population était favorable à la réunification. Ce n'est qu'à ce moment que Poutine a donné le feu vert. Il a aussi dit que l'annexion de la Crimée n'avait jamais été un but en soi. Si la population locale avait voté pour rester en Ukraine, la réunification avec la Russie n'aurait jamais eu lieu.
Est-ce qu'il y avait des problèmes avec la transition? Non, pas de problème. Nous sommes tout de suite habitués au système monétaire. Tout va bien, tout est parfait, nous avons assez d'argent. Ce n'est pas pire qu'avant.
Tout au début, il avait des problèmes au niveau bancaire, au niveau financier, au niveau logistique pour transporter des camions, des produits, des marchandises, etc. Maintenant, il n'y en a plus. Je n'y vois plus.
Voilà, alors ça évidemment c'est la version de RT, c'est-à-dire le rattachement de la Crimée, c'était une volonté des personnes qui y vivaient, ça a été un peu compliqué au début mais aujourd'hui tout va bien, merci pour eux. Bonjour Maxime Audinet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes doctorant à l'Université Paris-Nanterre, chercheur associé à l'IFRI, et vous avez, vous, étudié le versant médiatique de cette crise ukrainienne au prisme de deux canaux, RT d'un côté et puis Ukraine Today de l'autre. Vous avez regardé comment se construisent les récits narratifs de ces chaînes, la couverture de la crise ukrainienne qui ont été faites par ces deux acteurs. Alors, on connaît assez bien RT, on en a entendu là quelques échos. On connaît moins bien Ukraine Today. Est-ce que vous pouvez d'abord, Maxime Audinet, nous présenter peut-être le contexte d'émergence d'Ukraine Today et la manière dont on a pensé sa création pour contrer l'offensive médiatique de RT, Maxime Audinet?
Oui, alors absolument. Alors Ukraine Today, qui d'ailleurs, je le dis tout de suite, en fait, a fermé en avril 2016 et a été remplacé. Je vais en reparler. Mais cette chaîne a été créée en fait au moment où après le mouvement Euromaidan, vous avez tout un écosystème médiatique qui a été effectivement créé pour réagir et pour contrer ce que l'Ukraine qualifie d'agression informationnelle de la Russie par plusieurs canaux et en particulier par des canaux médiatiques russophones. Et Ukraine Today donc est une chaîne privée. Elle est créée avec par exemple d'autres organismes non gouvernementaux comme Hromadske par exemple ou des organismes de lutte contre la désinformation comme le site Stop Fake. Et voilà, cette chaîne.
Donc c'est pas un média gouvernemental. C'est pas
non,
un goût...
alors ouais. c'est pas un média gouvernemental, c'est un média qui est financé par la chaîne One Plus One de Igor Kolomoïski, qui est donc cet oligarque ukrainien. Et c'est d'ailleurs sur fond de tension entre Igor Kolomoïski et l'ancien président Poroshenko, qui était extrêmement opposé pour diverses raisons, que Ukraine Today a dû fermer.
Kolomoïski, rappelons quand même, hein, Maxime Audinet, c'est important, oligarque ukrainien soit, mais soutien de Zelensky, il a beaucoup fait pour aider à l'élection de Zelensky.
Oui, alors absolument, c'est une des d'ailleurs le président Zelensky essaie lui-même de se distancer au moins discursivement du personnage de Kolomoïski. Ce qui est important, c'est de dire aussi que parallèlement à cet écosystème non gouvernemental, vous avez aussi la création d'un ministère pour la qu'on appelait le ministère pour la politique informationnelle, qui a été créé en 2014, donc au début de la crise ukrainienne, et qui a abouti en fait après la disparition d'Ukraine Today à la création d'une branche d'une branche télévisuelle internationale aussi, cette fois-ci gouvernementale, dans le cadre d'une agence qui s'appelait Ukrinform, et cette chaîne qui s'appelle UATV a donc été créée sur les ruines, si j'ose dire, de Ukraine Today, mais avec un prisme cette fois-ci clairement gouvernemental. Et donc c'est cette chaîne justement a fermé il y a les services anglophones et arabophones de cette chaîne ont fermé le mois dernier, et je crois que c'est très important parce que c'est un choix de Zelensky qui lui-même a dit qu'il souhaitait en fait changer le ciblage de cette diplomatie publique ukrainienne finalement, et donc les services anglophones, arabophones et tatarophones de cette chaîne ont fermé, et seuls les canaux russophones et ukrainophones sont conservés dans l'objectif de cibler cette fois-ci le Donbass et les populations majoritairement russophones de cet espace, donc avec un ancrage une réorientation de ce conflit informationnel sur en interne plutôt que dans l'espace international global où l'Ukraine a certainement compris qu'elle ne pouvait pas concurrencer la Russie et en particulier RT.
Oui, alors ça c'est la vraie nouveauté, si je puis dire, puisque effectivement et RT et Ukraine Today, c'était au fond des chaînes qui étaient destinées à l'international, à l'étranger, aux occidentaux. Là, Volodymyr Zelensky, il change totalement. Et d'ailleurs, il l'avait dit dans sa campagne, il avait dit qu'il allait créer une nouvelle chaîne de télévision publique russophone à destination des républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Preuve que cette bataille médiatique, elle est encore d'actualité, mais que lui, il considère que maintenant, elle se joue auprès du public des territoires séparatistes. Il a raison, vous pensez ?
Il a raison dans le sens où il est clair qu'avec les moyens dont dispose l'Ukraine et qu'elle est prête à investir dans cette bataille médiatique, dans ce champ informationnel, c'est nettement plus judicieux de cibler davantage des populations qui en plus ont évidemment un intérêt beaucoup plus important que l'Ukraine à être influencées ou à être persuadées d'un certain nombre de choses que l'Ukraine a besoin de revendiquer auprès d'eux et pour contrer évidemment l'offensive médiatique russe de l'autre côté.
Sauf qu'on l'attend encore, Maxime Audinet. On l'attend encore, cette chaîne. Elle devait ouvrir le 15 février, elle va être repoussée, c'est repoussé au 1er mars.
Alors elle va être créée dans les semaines qui viennent en tout cas, mais ce que je voulais juste dire c'est que si vous comparez les budgets, le budget de cette chaîne UATV, c'est 16,5 millions d'euros qui sont prévus pour le lancement de cette nouvelle chaîne. Si vous comparez avec RT, c'est 300 millions d'euros. Donc on est vraiment dans les mêmes échelles. Et donc il me semble que de ce point de vue, ce ciblage plus précis et cette prise de conscience aussi de l'asymétrie fondamentale qui existe entre les capacités médiatiques russes et ukrainiennes par le pouvoir ukrainien est sans doute judicieux pour le pouvoir ukrainien.
Et est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir sur cette chaîne ? Est-ce que c'est une pure chaîne d'information, Maxime Audinet, ou sur le mode RT ou Ukraine Today, justement, ou est-ce que c'est autre chose ?
Alors, on sait qu'il y a, il y aura une dimension information, chaîne d'information en continu, assez traditionnelle, pour, en particulier pour couvrir les actualités du Donbass et d'Ukraine. Mais il y a aussi, et ça c'est peut-être la fibre du président Zelensky, il a insisté pour qu'il y ait aussi une dimension très divertissement. Donc, a priori, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des films ukrainiens, des séries, éventuellement peut-être son propre show, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, l'idée est probablement pour attirer aussi ses audiences et s'implanter dans ce paysage médiatique régional, de ne pas en faire uniquement une chaîne d'information continue, ce qui était le cas du Ukraine Today notamment.
Et apparemment, on est en discussion pour obtenir aussi les droits du football, ce qui veut dire que voilà, ça serait la chaîne du cinéma et du football. On en connaît nous ici. Anna Colin-Lebedev, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre effectivement médiatique? Alors à la fois, j'allais dire le premier volet qu'on décrivait avec cette confrontation de récits entre RT, Russia Today et puis Ukraine Today, et puis cette nouvelle stratégie là qu'est en train de mettre en place Zelensky.
Alors la guerre
à destination des territoires.
À destination des territoires séparatistes, oui. La guerre médiatique a été un élément extrêmement fort dans le déclenchement du conflit armé. On peut dire que voilà, l'information, la désinformation, la propagande, les rumeurs ont joué un rôle extrêmement important dans l'embrasement du Donbass. Des deux côtés d'ailleurs. Zelensky est un homme des médias. Hein. Il sent cette importance. Il sent l'importance de parler aujourd'hui aux populations séparatistes. On va voir quel sera l'effet est-ce qu'il y aura un accès, est-ce qu'il y aura une possibilité pour les habitants des territoires séparatistes de regarder ces médias. En tout cas, je dirais que ça montre une certaine capacité qui se développe, et ça c'est plutôt un signe positif dans le processus de paix, une capacité qui se développe en Ukraine à réfléchir aux populations séparatistes autrement que comme des ennemis. Vous avez d'autres médias, comme par exemple la chaîne de télévision Khromatske, qui a tenté de faire en continu des reportages, par exemple, sur les conditions de vie sur la ligne de front, sur les conditions des civils, d'une manière plus compréhensive. Vous avez aujourd'hui des enquêtes qui circulent en Ukraine et qui sont faites dans les territoires séparatistes sur les attitudes politiques des habitants du Donbass. Les Ukrainiens s'interrogent sur la manière dont on pourrait en fait ramener les esprits en Ukraine.
Merci beaucoup à Maxime Odinet qui était avec nous à l'instant par téléphone. Et puis un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Anna Colin-Lebedev, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur notamment de cet ouvrage « Le cœur politique des maires », analyse du mouvement des maires de soldats en Russie, c'était aux éditions EHESS, mais bien d'autres articles, on va essayer d'en mettre un maximum sur la page de Culture Monde. Florent Parmentier, un grand merci également à vous. Vous concernant, je rappelle que vous êtes cofondateur du blog Eurasia Prospective, également auteur des « Chemins de l'État de droit »,« La voie étroite des pays entre Europe et Russie », c'était aux éditions de Sciences Po, mais aussi un ouvrage que vous avez coécrit avec Josette Durieux sur la Moldavie, qui est un peu votre sujet depuis un moment. Florent Parmentier, la Moldavie à la croisée des mondes. Merci infiniment à tous les deux. 11h presque 53 minutes. L'heure de trouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors il est peut-être un tout petit peu tôt pour annoncer la mise à la retraite d'Angela Merkel, et pourtant.
Eh oui, elle n'a que 65 ans dans un pays où la vie active se poursuit souvent au-delà de cet âge. Et les commentateurs qui ont annoncé son départ depuis qu'elle a été élue présidente de la CDU en 2000, puis chancelière fédérale en 2005, ont été régulièrement contredits par les faits. Merkel, aime rappeler qu'elle en est à son 3e président américain, à son 4e président français et à son 5e premier ministre britannique. Mais le renoncement de son héritière désignée à la tête de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, va ébranler encore un peu plus l'autorité de la chancelière allemande. Merkel, qui avait pris AKK, qui avait donné à AKK la responsabilité du ministère de la Défense, la préparait à lui succéder à la chancellerie. Cette transition en douceur n'aura donc pas lieu. Non seulement AKK a fait preuve de naïveté en tant que chef des armées, mais la « mini-Merkel », comme l'ont surnommé ses adversaires, a été incapable de s'imposer à la tête de la CDU. Ce parti est déchiré entre une tendance centriste et une autre conservatrice. Le coup fourré de Thuringe, où les responsables locaux de la CDU ont manifestement comploté avec ceux de l'AFD pour faire élire ministre-président un libéral du FDP, a achevé de décrédibiliser la dauphine d'Angela Merkel. Les centristes de la CDU, comme Armin Laschet, le ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie, sont fidèles à la ligne Merkel, à savoir pas d'alliance électorale avec les partis extrémistes, ni avec l'AFD à droite, ni avec Die Linke à gauche. Mais l'aile droite du parti estime que Merkel, en dérivant vers la gauche, a abandonné de facto l'électorat conservateur à l'AFD. Ses représentants, comme le ministre de la Santé, Jens Spahn, ou l'ancien chef du groupe parlementaire de CDU, Friedrich Merz, jugent que leur heure est venue et ils sont bien décidés à rompre avec la ligne Merkel. Si l'on cherche une preuve du déclin d'Angela Merkel, on le trouvera dans le long article qui lui est consacré ce mois-ci dans la revue intellectuelle britannique Prospect. Philip Holtermann, son auteur, l'a tout simplement titré son article « Who was Angela Merkel ?»
Donc on en parle au passé, ce qui en dit long, Brice. Hein.
Bah oui, Merkel, écrit Holtermann, a longtemps incarné la résistance de l'ordre international libéral face à la montée des populismes et des hommes forts qui, comme Orban en Hongrie, se réclament d'une démocratie illibérale. Obama, d'ailleurs, a semblé lui transmettre à Merkel le flambeau de la défense des valeurs libérales, à savoir multilatéralisme, règne de la loi, ouverture des frontières au commerce et à la circulation des idées comme des personnes. Mais la résistance opposée par Merkel a ressemblé de plus en plus à de l'inertie. À l'étranger, on a pu prendre cette absence de mouvement pour une preuve de fermeté, mais en Allemagne même, on se lasse de son immobilisme et on serait tenté d'ajouter, en France, Macron aussi. Le plus étrange, écrit Holtermann, c'est qu'après 15 ans de règne, Merkel reste une énigme pour ses concitoyens. Il écrit « Qui est vraiment cette physicienne aussi, luthérienne et élevée selon des principes socialistes ?» La simplicité de son apparence, la banalité de ses discours, les imprécisions de sa politique ont contribué à faire de la chancelière un écran vierge sur lequel ses électeurs ont projeté leurs propres aspirations. Le merkelisme, écrit-il aussi, est un mélange bizarre de libéralisme et d'étatisme. Son côté libéral se méfie de tout ce qui serait vécu comme une contrainte ou une intrusion dans la vie quotidienne de ses compatriotes. Mais son côté étatiste est méticulement attentif aux ambitions et aux inquiétudes des Allemands. À la différence de certains de ses illustres prédécesseurs, comme disons Adenauer, Brandt ou son mentor Kohl, elle n'a jamais prétendu savoir intuitivement ce que les Allemands désirent réellement afin de le leur imposer. Non, elle gouverne depuis le début au sondage, afin de prendre quasi quotidiennement le pouls de l'opinion publique allemande. Et c'est sur la base de tels sondages qu'elle a pris les deux décisions capitales de sa carrière politique. L'abandon programmé de l'énergie nucléaire en 2011, l'accueil d'un million d'immigrés supplémentaires en 2015. Son problème, c'est que l'opinion varie. Ce qui était populaire un jour ne l'est pas nécessairement lorsque se font sentir les effets des décisions. Durant la plus grande partie de son règne, ses conceptions ont coïncidé avec celles d'un pays qui estime mériter des vacances à l'écart des drames de la grande histoire qui se sont déroulés au XXe siècle au prix de tant de ruines sur son sol. Voilà ce qu'écrit Philip Holtermann. Et du coup, elle a accompagné les évolutions du pays qu'elle gouvernait, même quand ces évolutions contredisaient ses propres convictions, comme elle l'a fait savoir, la légalisation du mariage homosexuel en 2017. En fait, écrit Holtermann en anglais, une expression résume ses 15 années de vie politique à la tête de l'Allemagne. She muddled through. Elle s'en est sortie. Elle a fait de son mieux. Elle s'est dépatouillée.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.